9h-11h, La vie en bleu sur France Bleu Auxerre.
Oui, mais restez là quand même.
Je m'en vais.
Mathieu Doucet, parce qu'il va y avoir du changement effectivement dans votre salle de bain aujourd'hui. On en parle. Alors, les packagings sont jolis. Les gels douches et leurs noms sont toujours de plus en plus doux, prometteurs. Et finalement, ça fait belle lurette qu'on se soucie plus du pain de savon. Alors, il paraît qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas pratique. Peut-être moins hygiénique. Et on l'a rangé au rang d'has-been. Et pourtant, il serait aussi la solution pour réduire considérablement notre utilisation de produits chimiques dans notre routine d'hygiène et aussi préserver l'environnement parce que pas de déchets. Le savon, on en parle et plus largement, on va revenir au basique aujourd'hui avec la Slow Cosmétique. On en parle, c'est le dossier du jour.
France Bleu Auxerre.
Qu'est-ce que la Slow Cosmétique? On va essayer de décrypter tout ça, Mathieu, avec nos invités aujourd'hui. Bonjour Marilyn Gandon.
Bonjour.
Aromathérapeute. Jocelyne Mopréin, bonjour.
Bonjour.
Artisan savonnier, vous êtes lancé il y a peu de temps de cela à Sergine pour créer votre propre gamme de savons, les savons d'Icona. Depuis combien de temps? Comment l'aventure a commencé?
Alors, ça fait à peu près 2 ans que l'idée me trottait dans la tête. J'ai fait beaucoup d'essais. Et en novembre 2016, l'entreprise Les Savons d'Icona est née. Au tout départ, je souhaitais réaliser des savons très neutres pour la peau, très doux, qui ne décapent pas, qui ne retirent pas le film hydrolipidique. Et puis, l'aventure a bien commencé. D'autres savons sont nés, plus parfumés, plus colorés, pour toute la famille, pour plaire à tout le monde.
Alors on va en découvrir cette gamme avec vous, mais on va quand même décrypter ce terme de slow cosmétique, Marilyn. Mmh. Il y a un retour, voilà, c'est un peu back to basic, quoi. On revient aux fondamentaux.
Oui, alors en fait, la slow cosmétique, c'est un mouvement qui a été créé par Julien Québec, qui est belge. Et en fait, c'est plus un mouvement qu'on suit si on veut, quoi. Comment l'expliquer? C'est on retourne au vraiment naturel. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il n'y a pas besoin d'utiliser 10 000 produits pour être bien, pour le bien-être, on va dire. Qu'on peut utiliser des produits naturels. Donc, on entend par produits naturels, bah, les cires végétales, les huiles végétales, les huiles essentielles, on peut s'en servir. Enfin, voilà, tout ce genre de produits qui vont être issus de la nature et qui vont pas être remis avec, bah, par la synthèse, la chimie et tout ce qu'on peut vanter, anti-rides, anti-taches, anti-truc, machin, truc, voilà, bref. Donc voilà, on va vraiment vers le naturel.
Mais ça veut pas dire qu'on prend pas soin de soi.
Mais on prend très bien soin de soi avec des produits naturels.
Marilyn Gandon, Jocelyne Mopréin, vous êtes nos invités aujourd'hui pour parler de la cosmétique au naturel, de ces produits. Bah, regardez un petit peu ce qui traîne dans votre salle de bain. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos réflexions et témoignages. 03 86 52 23 23. La vie en bleu, c'est jusqu'à 11h. Belle matinée.
France Bleu Auxerre, la vie en bleu, jusqu'à 11h.
La slow cosmétique, les huiles essentielles, un retour au naturel aujourd'hui dans la vie en bleu sur France Bleu Auxerre avec nos invités Mathieu, Marilyn Gandon, aromathérapeute, et Jocelyne Mopréin, artisan savonnier installé à Sergine. Ça va faire un an maintenant que vous êtes lancé, que vous avez lancé la gamme des savons d'Icona. Question toute bête, comment on fabrique le savon?
Alors, le savon, c'est très simple à fabriquer. C'est le mariage de corps gras, donc d'huile, avec une solution de soude, une base forte. Soude ou potasse. Soude pour fabriquer du savon solide, potasse pour fabriquer du savon liquide.
D'accord.
Voilà, de ce mélange va naître la molécule de savon et de la glycérine. Donc, en fait, un pain de savon, c'est à la fois du savon et de la glycérine quand on la retire pas.
Rien à voir avec la nitroglycérine.
Non,
ah, pas trop. Qu'est-ce qu'on qualifie de savon artisanal?
Alors, savon artisanal, c'est le savon fait par un artisan sans procédé industriel.
Sans travail chimique techniquement industriel, quoi.
Voilà, c'est quand même de la chimie, parce que la réaction de saponification, c'est une réaction chimique, mais c'est une réaction simple. Il n'y a qu'une réaction. Et il n'y a pas de sous-produits rejetés dans la nature. C'est vraiment une réaction toute simple, toute basique. Voilà.
Et on parle de saponification à froid?
Alors, à froid, parce que pas à chaud.
Parce qu'il n'y a pas de cuisson.
D'accord. Voilà. Les matières grasses solides à température ambiante sont fondues, donc chauffées, mais juste pour qu'elles soient liquides pour pouvoir les travailler. Donc après, j'ajoute les matières grasses qui sont liquides à température ambiante. Donc pour moi, en l'occurrence, c'est l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Et de ce mélange, j'ajoute la solution de soude, je mixe. Ça va prendre une consistance. Je coule dans des moules et 24 heures après, je peux démouler et couper.
D'accord. Voilà. Il faut faire attention à cette, on va dire, cette indication de savon artisanal quand on choisit son savon, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, maintenant, avec vous, on sait effectivement que ce sont des produits sains, mais quand on l'achète en grande surface, en pharmacie, il faut lire les étiquettes. Qu'est-ce qu'on lit, Marilyn Gandon, et à quoi il faut faire attention quand on choisit son savon?
Bah, que ce soit savon ou tout autre produit, oui. Tout ce qui va être ajouté. Mmh. En fait, les étiquettes où vous avez 15, 20 noms de produits, je dirais que ça a fuir, quoi. Enfin, après, tout dépend, mais à moins que ça soit que des huiles essentielles, des mélanges et tout, mais souvent, il y a des conservateurs, des antioxydants, des arômes naturels, artificiels qui sont rajoutés et tout. Et souvent, en plus, c'est compliqué. Est-ce que ce sont des noms en latin ou c'est des noms chimiques?
E472V653.
On ne sait pas à quoi ça correspond.
On ne sait pas à quoi ça correspond. C'est comme dans l'alimentation, hein. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont rajoutées. On ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, on essaye d'aller, moins il y en a et mieux c'est.
Et mieux on se porte. Hein.
Ouais, aussi.
Plus l'étiquette est petite, plus il faut acheter le produit.
Voilà, une base cosmétique, ça va être de l'eau, une base huileuse, une huile. On peut rajouter, parce que comme je vous disais, un peu de corps gras, des choses comme ça. Après, selon de ce qu'on va faire. Mais comme disait ma collègue, il n'y a pas de problème particulier.
Vous restez avec nous sur France Bleu Auxerre, c'est la vie en bleu. Chaque jour, nous sommes ensemble au 03 86 52 23 23. Nous allons évoquer avec vous aussi, Jocelyne Mauprin, peut-être les idées reçues sur le savon. Et vous me le disiez en préparant cette émission, quand on s'est rencontrés, si ça mousse pas, les gens pensent que ça lave pas.
Oui, alors voilà.
C'est bête, mais...
Il faut arrêter de penser cela parce que ce n'est pas la mousse qui lave. La mousse, elle décape surtout. Donc en fait, tous les tensioactifs de synthèse moussent énormément, mais décapent énormément. Donc si on se lave peu, pas de souci, on peut peut-être supporter. Mais on se lave quand même de plus en plus souvent, en été, voire deux fois par jour. Avec une solution qui mousse trop, on se retrouve à avoir la peau abîmée, desséchée, ce qui oblige à se mettre du lait, de la crème en permanence.
Vous parlez du film hydrolipidique tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je ne comprends pas trop le terme, j'ai une petite idée. Mais...
Alors, le film hydrolipidique, en fait, c'est le film qui est sur la peau naturelle, sécrétée par les glandes sébacées.
Qui protège la peau.
La peau naturellement.
Et donc ça, il faut y faire attention.
Voilà, il ne faut pas trop le décaper. Il ne faut pas le détruire parce que finalement, sinon les cellules ne sont plus protégées.
Et c'est à ce moment-là qu'on sent les tiraillements, qu'on a la peau sèche.
Voilà.
Souvent, les problèmes de peau, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau et souvent, c'est un problème d'usage de produits qui ne correspondent pas du tout à leur peau, quoi. Donc comme disait Jocelyne, tout ce qui va être décapant et tout, ça va provoquer des assèchements de la peau. Après, j'ai la peau qui me gratte, je sais pas ce que j'ai la peau qui se désquame ou que ça. Et souvent, c'est juste parce qu'on n'a pas utilisé un bon produit.
Alors, quels sont les bons soins et la bonne pratique des produits cosmétiques? Qu'est-ce qu'il nous faut, par exemple, dans notre salle de bain?
Absolument.
Absolument. Absolument.
Un savon d'Icona.
Certes.
Non, il faut quand même hydrater sa peau parce que souvent, là, on arrive dans l'hiver. Donc, c'est vrai que la peau va quand même avoir besoin d'être hydratée, protégée. Donc, on peut mettre une crème, tout à fait. On peut mettre des baumes pour les lèvres, comme j'entendais que vous en parliez tout à l'heure. Voilà, un stick lèvres, ça va protéger les lèvres. Après, le maquillage pour se faire jolie.
Quand même, hein.
C'est important pour moi.
Voilà, c'est important, ouais. On utilise un peu ce qu'on veut. Après, on peut très bien se dire, je vais mettre une huile pour le corps parce que j'ai envie d'hydrater ma peau ou par le côté massage. Enfin, on peut utiliser, mais il n'y a pas vraiment besoin de tous les produits qu'on voit sur les étalages, que ça soit de rayons cosmétiques, de pharmacie, de parapharmacie, enfin tout ce que vous voulez, la plupart, il n'y en a pas besoin.
Restez avec nous sur France Bleu, c'est la vie en bleu avec vous, Mathieu Montel, d'ici quelques instants. Qu'est-ce que vous avez à dénicher aujourd'hui?
On va rester dans le bien-être, on va quitter un peu les cosmétiques, la lumière.
Ah, c'est important ça, pour un bon maquillage.
Bah, par exemple,
aussi.
Pour être de bonne humeur.
Bonne humeur avec nous, c'est l'Avion Bleu. On parle de la slow cosmétique, des savons d'Icona avec notre invitée ce matin, Jocelyne Mauprin, et d'aromathérapie et de cosmétiques au naturel. Avec vous, Marilyn Gandon, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Le bien-être aujourd'hui dans le dossier du jour qui domine dans l'Avion Bleu. Alors nous, on va quitter quelques instants, Mathieu, les cosmétiques pour la lumière.
Oui, en 2015, c'était il n'y a pas si longtemps, les Nations Unies ont décrété que c'était l'année de la lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière, c'est un élément vital de par ses effets bénéfiques sur la santé et sur le bien-être des individus. Nous sommes en automne, les journées raccourcissent. Vous avez sûrement, comme moi, déjà eu cette pensée en voyant la nuit arriver. Oh, déjà.
Je me suis fait la réflexion hier
et voilà.
Je me suis dit, ce sera encore pire dans 15 jours quand on aura changé
l'heure
d'heure.
L'heure d'hiver, exactement. La lumière est principalement la lumière naturelle. C'est important, ça permet de se sentir mieux pour être bien. Alors, bon, c'est un peu, je vais vous donner une limite. Il faut 50 lux par jour. Le lux, c'est l'unité de mesure de lumière. En gros, c'est le niveau de lumière que reçoit une surface. Plus il y en a, mieux on se sent. Le souci, c'est que parfois, bon, déjà là, quand on arrive en automne, en hiver, il y a moins de lumière. Et puis, dans notre habitation, notre lieu de travail, c'est peut-être pas bien éclairé.
Et ça marche pas avec la lumière, par exemple, avec les spots qu'on a.
Eh ben non, justement, parce que c'est pas de la lumière naturelle. Et justement, trop de lumière pas naturelle, ça peut amener la déprime, ça peut être, justement, vecteur de sentiments un peu du blues, on va dire, pour faire quelque chose de simple. C'est pour cela que je vous présente, donc, le réflecteur de lumière intérieure. Une idée toute simple, c'est plutôt basique. Utiliser un grand miroir pour faire rentrer la lumière dans notre appartement, dans notre maison, dans un local où l'on travaille, donc de la lumière de l'extérieur. Il existe trois types de réflecteurs. Le réflecteur de lumière intérieure qui se pose tout simplement sur le rebord des fenêtres. Comme ça, vous pouvez amener avec ça, même chez vous, au boulot, vous vous baladez, vous pouvez le fixer si vous avez besoin, mais c'est plutôt simple d'utilisation. Vous l'inclinez pour gérer comment vous voulez que le flux de lumière rentre chez vous. Ensuite, vous avez le réflecteur de lumière extérieure qui se pose à
l'extérieur.
Bien joué. Sur le mur.
Il n'y a pas de piège en fait.
Jamais. Et puis il y a le réflecteur de lumière à poser sur le balcon. C'est toujours la même utilisation, c'est juste que pour les différentes utilisations, il vous propose un type de réflecteur différent, plusieurs tailles possibles. C'est une super idée toute simple. Alors il faudra investir un petit peu quand même, parce que ça peut varier entre 59 et 209 euros, mais vous pouvez avoir des réflecteurs très très grands si vous avez besoin. Vous pouvez installer ça au-dessus d'un Velux, par exemple, à côté de la fenêtre. Ça reste une bonne solution pour faire rentrer la lumière chez vous et pour toutes les infos. Direction notre page Facebook, je vous ai mis un lien pour découvrir comment vous fournir ce réflecteur de lumière. L'idée, ça m'a fait plaisir que Marilyn Gandon a beaucoup aimé.
Approuve. Ouais.
Bah, j'approuve dans le sens où il a été prouvé qu'en chronobiologie, enfin dans tout ce qui est chrono, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dépressions saisonnières et simplement parce que les gens manquent de lumière. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus les lampes de luminothérapie. Mmh. Voilà, thérapie, hein, lumino, on perd là-dedans, par rapport à ça. Parce que les personnes, des fois, voilà, on en a tous hein, autour de nous, au mois d'octobre, oh, je suis pas bien, je suis fatiguée.
Avec les petites maladies.
Tout, voilà, il y a tout qui ressort. Et au mois de mars, c'est des personnes qui vont super bien.
Je fais partie de ces gens-là, voilà. C'est grave,
et ben,
docteur.
Voilà. Eh bien, il faut acheter une lampe ou les réflecteurs, voilà, de Mathieu.
En collier.
Et, voilà, c'est vraiment prouvé, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui dès qu'il manque de lumière, et ben avant ils te dépriment. Enfin, ouais, c'est des petites déprimes, c'est pas des grosses dépressions, mais ça.
Et on c'est un petit coup de mou, quoi.
Ça va permettre d'être beaucoup mieux. Donc on fait 2 heures de luminothérapie par jour et ça suffit.
Et pour appuyer ça, je vous ai dit, il faut 50 lux par jour si on veut travailler, si on veut être concentré.
J'attends
avec de la lumière naturelle. Je sais, il en faut 500. Donc vous imaginez bien que pour être vraiment bien, il faut pas mal de lumière.
Donc voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à acheter.
Exactement. Bah, petit
sinon,
Papa Noël.
Vous allez à la casse récupérer plein de rétroviseurs de voitures et puis ça peut faire l'affaire.
Ça marche.
C'est moins prévu pour
vraiment
ça.
Vraiment, il n'y a que ça pour te faire plaisir.
Voilà.
Le truc à Mathieu à retrouver sur la page Facebook de France Bleu Auxerre ce matin, les cosmétiques au naturel. On en parle avec Jocelyne Mauperin, artisan savonnier à Sergine, avec vous, Marilyn Gandon, aromathérapeute. C'est la saison, c'est l'automne, c'est la saison des poux également. moment, les poux qui envahissent les têtes des
c'est
enfants.
C'est sympa, ça.
Ouais, c'est vraiment le bon moment. Et voire même parfois, ça ne s'arrête jamais. Alors, Vanessa Lambert, non, mais alors, j'écoutais une maman, la dernière fois, j'étais juste derrière. Elle disait, ah non, mais ma fille, elle en a eu toute l'année. J'ai pris peur, mais pour la mienne.
J'ai une de mes amies, je rigolais parce que justement, j'ai une de mes amies qui est très embêtée avec ça pour sa fille et qui a marqué sur sa page Facebook, les poux, c'est pas tabou.
Et on en viendra tous à bout aujourd'hui. Sur France Bleu Auxerre, grâce à Vanessa Lambert, c'est juste après Eddie Mitchell.
France Bleu Auxerre.
Vanessa Lambert, vous êtes avec nous. Ça fait à peine 5 semaines que les enfants sont à l'école. Et voilà que les poux sont là.
C'est dans l'ordre des choses. Fourniture, livre à couvrir et poux. C'est le combo de la rentrée. Bon alors déjà, on va tordre le cou aux idées reçues qui laissent à penser que la présence de poux témoigne d'une hygiène défectueuse et touche les classes sociales les plus défavorisées. Ça m'énerve tellement. Et en plus, c'est faux. Les poux peuvent toucher tout le monde. Il n'y a aucun rapport avec une mauvaise hygiène. Ça, c'est dit pour les mauvaises langues à la sortie de l'école. Le premier signe qui doit vous alerter, c'est si votre enfant se gratte la tête plus que d'habitude. Donc une inspection minutieuse de la tête de votre mignon vous fera très vite comprendre que l'ante et poux ont élu domicile dans son cuir chevelu et ses cheveux. C'est génial, hein. Mais pas de panique, c'est pénible, mais pas dangereux.
Mais on peut quand même s'en débarrasser, rassurez-nous.
Mais bien sûr, il existe de nombreux traitements anti-poux qu'on retrouve en pharmacie, plutôt efficaces. Le seul hic, c'est qu'ils sont souvent chers et pas remboursés. Il y a juste quelques petits trucs à savoir. Généralement, ces produits sont efficaces sur les poux vivants, mais un petit peu moins sur les lentes. Du coup, il ne faut pas hésiter à refaire un traitement une semaine après pour tuer les poux qui auront éclos dans leurs œufs, que vous n'aurez pas anéanti. C'est mignon, hein. Deuxième chose à savoir, ces traitements sont plus efficaces sur cheveux secs que sur cheveux mouillés, parce que sinon ça va diluer le produit. Enfin, troisième chose, ce n'est pas une solution miracle, et après application du produit, vous devrez systématiquement passer les cheveux de votre enfant au peigne fin pour retirer un maximum de poux et de lente. Ils ne tomberont pas tout seuls comme par magie.
Et les remèdes de grand-mère, alors ça marche ?
Oui, on a beaucoup entendu parler du vinaigre, alors c'est vrai que ça peut aider à décoller les lentes, mais ça ne les élimine pas. En revanche, ça vaut le coup d'essayer les huiles essentiels, lavande, géranium, citron, eucalyptus et arbre à thé combinés et mélangés à votre shampoing peuvent être pas mal. Je dis bien mélangés avec le shampoing, mais après le traitement chimique, on ne s'en passe pas. Et puis un dernier petit conseil, évitez le sèche-cheveux genre exterminateur, on va tous vous cramer. Non, ça marche pas parce que les poux adorent la chaleur et bien sûr, même si c'est toujours très désagréable, on n'oublie pas de prévenir le maître ou la maîtresse afin d'alerter les autres parents. Alerte, alerte, ils sont de retour. Et on reste zen surtout.
Bah oui, de toute façon, ce qu'on peut faire.
Méditer.
Pas de la faute de nos enfants. Marine Gandon, justement, puisque vous êtes avec nous, on peut se passer du traitement chimique, les huiles essentielles.
Les huiles essentielles qui étaient citées dans le reportage vont.
Ouais. Pour ça. Donc lavande, géranium, citron, eucalyptus et arbre à thé. Il faut mélanger tout ça.
Moi, je mélange les deux premières et la dernière. Non, l'arbre à thé, c'est une huile essentielle qui marche vraiment pour plein de choses, et entre autres pour les petites bêtes. Et donc la lavande, qui est un répulsif naturel, géranium également, l'eucalyptus et puis alors l'eucalyptus en plus, elle dit pas lequel, donc il y en a quand même 3 ou 4 qui existent sur le marché, donc à se méfier aussi.
C'est toujours... Et la lavande, c'est pareil.
Ouais, la lavande, c'est pareil.
Il y a combien de types d'huiles essentielles de lavande?
Alors la lavande, donc on est surtout deux types, la lavande fine et la lavande aspic. Et après, il y a le clonage des deux qui a donné le lavanda abrial. Et en fait, le lavanda abrial et la lavande aspic, il y a du camphre dedans. Donc on évitera de les utiliser chez des enfants de moins de 7 ans, 6-7 ans, pour éviter les risques de convulsions. Voilà. Donc souvent, on utilise la lavande fine qui marche très bien, mais qui est plus chère. Donc souvent, c'est vrai qu'on va arriver... dans le rayon, on va avoir le lavandin qui est moins cher. Donc voilà, des enfants qui ont plus de 6 ans, c'est pas gênant. En dessous, on évitera.
Comme répulsif, une goutte d'huile essentielle derrière les oreilles.
Ça marche très
bien.
Ça
marche? Ça suffit aussi peut-être?
Ça peut aider, ça peut, voilà, ça dépend. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a des têtes à poux, hein.
Oui.
Donc voilà, un gamin qui...
La
qui
bouteille! La bouteille!
Non, quand même pas. Et puis bon. Et puis toujours, ce précaution d'usage dans les huiles essentielles, on n'utilise jamais une huile essentielle plus de 3 semaines d'affilée. Donc, on fait des pauses. On va faire des pauses dans les week-ends. On va faire des pauses. Voilà. Donc, c'est bien d'en mettre tous les matins d'école. Les jours où l'enfant n'est pas à l'école, on évite. Alors, dans tout l'usage, hein, ça c'est d'accord. Valable pour toutes les huiles essentielles et pour tout le monde, on va dire. On évite d'utiliser les huiles essentielles plus de 3 semaines d'affilée parce que le foie a besoin de refaire ses enzymes. Donc, soit on fait toujours des pauses thérapeutiques, donc ce qu'on appelle les fenêtres thérapeutiques. Alors, soit on fait 3 semaines d'affilée, on fait une fenêtre d'une semaine, on va dire. Donc, pendant une semaine, on utilisera. Soit on fait des pauses dans la semaine. On va utiliser, je sais pas, du lundi au vendredi, samedi, dimanche, on n'utilisera pas. On fait toujours pas. Alors, il y a deux choses. Il y a l'histoire du foie et de ses enzymes. Et on a remarqué que quelqu'un qui utilise tout le temps des huiles essentielles, voilà, dans son quotidien ou dans sa pratique médicale ou les kinés, par exemple, ou tout ça, au bout d'un moment, peuvent faire des eczémas. Et en fait, c'est une intolérance aux huiles essentielles d'être trop utilisées.
D'accord, une sorte d'overdose, entre guillemets.
Voilà, le corps, au bout d'un moment, il dit stop. Et en fait, il va... Bah, je sais pas comment, voilà, ça va être plus une réaction allergique en gros, donc ça va provoquer de l'eczéma, des démangeaisons, enfin tout ce
qui correspond. Point trop n'en faut.
Voilà, donc on fait tout, c'est pour ça qu'il faut faire des pauses.
Les savons d'Icona, Jocelyne Mauprin, Marilyn Gandon, aromathérapeute, vous êtes nos invités encore pendant une dizaine de minutes sur France Bleu Auxerre pour parler de ces huiles essentielles en cosmétique, pour parler aussi de votre gamme de savons. On va y revenir d'ici quelques instants, ce sera juste après Niagara.
France Bleu Auxerre. France
Bleu. La vie en bleu, c'est chaque jour, avec vous, Mathieu Montel, avec nos invités du jour, Jocelyne Mauprin, artisan savonnier à Sergine, Marilyn Gandon, aromathérapeute. Les huiles essentielles et les cosmétiques, on en parlait hors antenne, c'est la mode de le faire à la maison, de fabriquer ses propres produits cosmétiques. On parle par exemple, et on pense au gommage à base de sucre, peut-être avec quelques huiles végétales pour voilà des baumes pour les mains, pour le corps. Attention.
Alors attention, oui, parce que ce que comme on disait en antenne, les huiles essentielles, il y a des contre-indications. Donc déjà, on ne va pas les utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes, on évite. Il y a certains cancers, dont les cancers hormonodépendants, il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées. La carotte, par exemple. La carotte, tout simplement, elle est contre-indiquée quand il y a eu du cancer ou antécédent de cancer. À part que c'est une super huile pour la peau. Elle va être revitalisante, elle va régénérer les cellules et tout, mais on peut pas l'utiliser pour tout le monde. Donc ça, tout le monde ne le sait pas. Et le problème, c'est comme je disais en antenne, on en trouve partout des huiles essentielles maintenant. Donc, et elles sont pas toujours de bonne qualité. Des huiles qui sont frelatées, on va rajouter d'autres huiles dedans, elles vont être coupées, elles vont pas être faites dans les règles de l'art, et du coup, elles sont pas bonnes pour la santé. Donc faut vraiment faire attention. Et puis après il y a les contre-indications propres à tout le monde. On n'utilise pas avec certains médicaments. Comme les médicaments, j'ai envie de dire, ça fait partie des. On croit que c'est une médecine douce et tout, mais non, c'est pas une médecine douce.
Parce qu'il n'y a pas d'ordonnance qui.
Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ordonnance, c'est pas parce qu'on les trouve partout et qu'elles sont pas exclusivement en pharmacie qu'elles ne sont pas dangereuses. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise, parce qu'après on va voir des articles, il y a eu des intoxications aux huiles essentielles et tout, c'est dommage parce qu'en fait c'est juste mes usages.
Ouais, et une méconnaissance.
Et une méconnaissance
du
donc,
produit.
Voilà, donc en cosmétique on risque pas grand chose. Normalement dans un cosmétique on en utilise 1-3%, ça peut monter un petit peu selon les produits qu'on va utiliser, mais c'est pas non plus des quantités phénoménales, il y a pas non plus, c'est très dilué, ça va toujours être dilué, elles vont pas être utilisées pures sur la peau. De toute façon, on évite d'utiliser des huiles pures sur la peau parce qu'elles peuvent brûler pour certaines. Pas toutes, mais bon, comme on les connaît pas toutes.
Oui, on se méfie.
Les gens ne les connaissent pas tous. Donc voilà. Voilà. Il y a vraiment des choses à faire attention. Ouais.
C'est quoi la différence entre une huile végétale et une eau florale?
Alors, rien à voir. Une huile végétale, on va prendre une graine. Donc, par exemple, la graine de macadamia, vu que l'huile de macadamia, on s'en sert quand même pas mal en aromathérapie. On va presser à froid, comme on fait de l'huile d'olive, en fait.
D'accord.
J'ai envie de dire, vous aviez eu une émission sur ça il y a pas longtemps.
Tout à fait,
je crois.
Sur les huiles, oui.
Sur les huiles, on va la presser à froid, on va extraire son huile végétale. L'eau florale, en fait, quand on va distiller une plante, donc une huile essentielle, c'est toujours extrait d'une plante aromatique. On va la distiller dans un alambic, on va faire chauffer, on va récupérer l'huile essentielle, et en dessous, il y a l'eau qui va se mettre, qui est le résultat de l'évaporation, en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'eau florale.
D'accord.
Donc, une eau florale ou hydrolat, ça va être chargé en molécules aromatiques 1 à 3%, règle générale. Donc là, il y a moins de contre-indications qu'avec les huiles essentielles.
C'est plus léger.
C'est beaucoup plus léger.
Et on peut s'en servir pur?
Oui, tout à fait. L'eau de fleur d'oranger qu'on utilisait autrefois pour les petits, pour les faire dormir, c'est ni plus ni moins que la fleur d'oranger et l'orange, comme on disait tout à l'heure. L'oranger, on va l'utiliser pour dormir, pour calmer, tout ça aussi.
Jocelyne Mauprin, vous, quelles sont les huiles essentielles que vous avez choisies pour parfumer vos savons? Parce que vous le disiez, vous avez une gamme de 3 savons qui sont tous différents.
Alors, j'ai une gamme de 9 savons.
9 savons.
Qui sont tous différents. Et j'en ai 4 qui sont parfumés. Alors, volontairement, je travaille avec peu d'huiles essentielles parce que j'ai sélectionné des huiles essentielles très sûres. Donc je travaille avec le lavandin, avec l'orange, le cèdre, la menthe verte et le romarin.
D'accord.
Voilà. Bon, on est sur du produit rincé pour le savon, donc les restrictions sont moins importantes qu'une huile pure mise sur la peau. Mais bon, malgré tout, il vaut mieux éviter les savons parfumés aux huiles essentielles chez les femmes enceintes et surtout dans les trois premiers trimestres de grossesse. Mmh. Voilà. Chez l'enfant, à éviter également avant l'âge de 3 ans. Bon, sauf à vie médicale. Hein,
ouais.
Si le médecin vous dit, prescrit ou quoi que ce soit.
D'accord, mais bon, par mesure de sécurité, l'enfant avant 3 ans, on peut très bien laver avec un savon sans huiles essentielles, c'est mieux.
Oui, c'est plus conseillé, effectivement. Donc, ce sont vraiment des savons, et on le sent par exemple au niveau des huiles que vous avez choisies, vraiment pour toute la famille, plus masculin avec le cèdre, voilà. Peut-être.
Oui, on aime les arbres.
Plus féminin, plus boisé, tout à fait.
Plus bûcheron.
Plus féminin avec la lavande, quoi. Enfin, effectivement, voilà. Donc, du coup, ça couvre vraiment l'ensemble de la famille et le bienfait du savon, effectivement, avec ces produits. C'est moins hygiénique que le gel douche. Je vais m'attirer vos foudres, certainement. Parce que peut-être qu'on le laisse poser, parce que c'est encore peut-être, ça fait partie de ces idées reçues.
Alors, c'est une idée reçue, parce qu'en fait, le savon, il est bactériostatique. Donc, en fait, des bactéries à la surface d'un savon, elles ne vont pas résister longtemps. Le savon, c'est un produit qui contient très, très, très peu d'eau, voire presque pas d'eau. Donc, en fait, les bactéries ne peuvent pas se développer dans un savon. Ce n'est pas un milieu propice au développement bactérien. Donc en fait, un savon, il suffit de le mettre sur un porte-savon pour qu'il soit bien séché entre chaque utilisation et c'est très hygiénique.
On le conserve jusqu'à combien de temps ?
10 ans.
Ça, c'est en prenant pas beaucoup de douches quand même. Hein.
Non, c'est un gros pain.
Ah oui, oui, oui.
C'est pour ça.
Non, conserve si on ne s'en sert pas.
Voilà, quand on s'en sert.
Mais combien de temps ça dure ? Un savon, un pain de 100 grammes, environ 2 mois, ça remplace aisément 2 flacons de gel douche. Voilà, sans le flacon en plastique qu'il faudra jeter.
Voilà, à méditer. Donc aujourd'hui, grâce à vous, Jocelyne Mauprin. Une dernière question, Marine Gandon. Les premiers froids de l'hiver, la peau qui tiraille un peu, les mains qui sont sèches. On se sert de quelle huile essentielle, par exemple, peut-être, ou qu'est-ce qui pourrait
être essentielle,
ou quel
la lavande
produit,
on peut utiliser, ouais. Mais bon, après ça va être une base grasse, quoi. Donc une huile végétale, un sérin, un col cream. Voilà, un mélange avec de la cire d'abeille, du beurre karité qu'on va faire fondre, d'une huile végétale. On peut mettre un peu d'eau florale. Alors comme disait tout à l'heure Jocelyne, les eaux, le problème quand on met une eau florale dans une crème, c'est qu'elle risque de moins se garder longtemps. Il faut savoir qu'en cosmétique naturelle, par contre, autant les savons, là, voilà, on peut les garder 10 ans parce qu'il n'y a pas d'eau et tout. En cosmétique, ça peut vite tourner. Une crème, dans un mois, elle peut y avoir tourné parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien dedans. Mmh. Contrairement aux crèmes qu'on va trouver ou avec les flacons airless, les choses comme ça. Mais ça ne se garde pas super longtemps. Ça peut vite moisir. Donc,
ouais.
De toute façon, dès que ça change de forme, de couleur, s'il y a de la moisissure, là, on n'a pas de doute, hein, c'est poubelle, quoi. On ne se pose même pas la question, quoi.
Vous nous aviez préparé quelques petites formules magiques, quelques petites potions.
Formules, non, pas spécialement. J'avais mis plutôt des dosages à respecter, ouais. Des choses comme ça. Après, vous parliez de l'exfoliant. L'autre jour, on a fait un exfoliant avec une huile végétale, de l'huile de coco, justement, de sucre différent, un sucre de canne un peu plus gras, un peu plus fin, on va dire. Et puis, on avait mis une huile de citron vert, une huile de citron jaune, une huile essentielle dedans. Un peu de vitamine E pour conserver quand même, quand antioxydant. Puis voilà.
Et puis voilà.
Et puis voilà, il n'y a plus qu'à s'exfolier la peau. Enlever les cellules mortes de l'été, gommer notre bronzage.
Adieu été, bonjour automne.
Voilà. Non, mais après, on peut faire plein de choses et puis on peut associer plein de choses. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler avec plaisir. Marilyn Gandon, aromathérapeute. Merci beaucoup, Jocelyne Mauprin, d'avoir été avec nous ce matin.
J'avais une petite question. Est-ce que vous savez, par rapport au savon, pourquoi Mickey Mouse? Et bien parce que Mario Bros.
Oh ah, c'était bien terminé là-dessus,
voilà.
Dites donc.
Je la prépare depuis une demi-heure.
On n'est pas mécontente d'être restée, hein, vraiment.
Voilà.
Marilyn Gandon, Jocelyne Mauprin, les savons d'Icona. Vous avez le plaisir de nous offrir et d'offrir à nos auditeurs de beaux coffrets tout au long de cette semaine. Alors, quelles sont les gammes de savons qu'ils vont retrouver à l'intérieur de ce coffret que vous avez le plaisir d'offrir?
Alors, les coffrets à gagner contiennent 3 savons. Donc, il y a un savon au lait d'amande, un savon au lait de chèvre et un savon au miel.
Mmh.
Voilà.
Faudra pas les manger, hein. C'est pour se laver. Ça, attention.
Ça ne se mange pas. Ça sent bon. Ils sont très doux pour la peau. Que dire de mieux?
Bah oui, bah que dire de mieux maintenant, bon. Il faut tester. Et les tester, c'est les adopter et on retrouve la joie du savon et l'odeur du savon sur la peau. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, les savons d'Icona. C'est à Sergine, vous retrouvez aussi tous les points de vente sur votre page Facebook.
Voilà, sur la page Facebook, les savons d'Icona.
Merci beaucoup Jocelyne Mauprin, merci beaucoup Marlène Gandon. À suivre, on va continuer à voyager et avec des belles senteurs et de belles saveurs d'ici quelques instants avec Bernard Despoyant. Il est l'ancien chef des Eliès à Champs-sur-Yonne, ambiance grecque jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre. J'ai testé pour vous, c'est le rendez-vous où nous faisons découvrir de l'intérieur, des passions, des métiers. Toute cette semaine, Mathieu, vous avez découvert le métier de chocolatier.
Oui, et quoi de mieux pour ça que d'aller voir des références du département dans le domaine. Olivier Vidal, place Charles
Pas mal.
Ouais, pas mal.
Monsieur choisit bien.
Effectivement, ambiance sucrée toute cette semaine dont j'ai testé pour vous.
Bonjour.
Bonjour.
J'arrive vite.
Ben ouais, on est nickel.
Bonjour, on rentre ici ou...
Là, je pose ça, je me change et je suis à vous.
Et bah super.
Vous avez retrouvé vos acolytes?
Ouais, c'est bon. Ils étaient pas bien loin.
Là, on est au sous-sol.
Oui.
C'est un labyrinthe ici.
C'est exactement ça. On est dans la vieille, le vieux centre-ville. Mm-hmm. Donc le laboratoire, il est sur plusieurs niveaux. Parce que il n'est pas très fonctionnel. Donc oui, c'est un petit peu labyrinthe, comme vous avez constaté.
Est-ce qu'à chaque étage, sa spécificité?
En haut, c'est la pâtisserie. À cet étage-là, c'est la chocolaterie. L'étage en dessous, c'est plus tout ce qu'il y a stockage. Mm-hmm. Et puis un peu garde-manger.
Il y a encore un étage en dessous, là, où on est à l'étage du dessous.
Non, il y en a encore un.
Ah ouais, d'accord.
Oui, il y en a encore un.
Sinon, ça tombe...
Voilà. Et donc, là, on est dans la partie chocolaterie. Mm-hmm. Donc,
alors, qu'est-ce qu'on a comme machine, alors
Alors là, on a comme machine, en fait, c'est une enrobeuse.
Qu'on entend tourner.
Voilà, qu'on entend tourner. Donc, l'enrobeuse, en fait, elle a pour but de mettre le chocolat au point. Parce que si on l'utilise chaud, en fait, le chocolat, il n'arrive pas à figer, il devient blanc, en fait. Mm-hmm. Donc, en fait, elle refroidit le chocolat et elle le garde à température, donc autour de 30-32 degrés, pour que, justement, le chocolat, il fige. En fait, nous, on appelle ça, il cristallise et qu'il brille.
D'accord.
Et après, là, le tunnel que vous voyez, c'est un tunnel de refroidissement. Donc, quand vous allez voir qu'on va enrober les chocolats, donc il y a un rideau de chocolat, les bonbons... sont à l'échelle passent sous le rideau. Mmh. Après, il y a une ventilation pour enlever le surplus de chocolat. Ça avance sur le tapis. Et lui, en fait, on envoie du froid et un petit peu d'air dans le tunnel. Et quand ils arrivent au bout, et bien, en fait, ils sont bons, prêts à ranger en boîte.
C'est une machine qui vous prépare, qui vous fait une bonne partie de la préparation.
On
pourrait pas la faire à la main.
Avant qu'il y avait les enrobeuses, les gens trempaient à la main.
Ouais.
Après, on laisse sur plaque cristallisée, figée donc, et après on rangeait les bonbons.
Et alors, le programme du jour, parce que vous faites pas ça tous les jours, est-ce qu'il y a un quotidien toujours le même pour un chocolatier? Il y a des choses qui changent?
Non, ça change un petit peu suivant les saisons, en fait.
Alors là, on est dans la saison...
On est dans la saison automne, donc là, on va aujourd'hui enrober des bonbons qui sont exclusivement pour un coffret spécial automne.
D'accord.
Donc, en fait, c'est praliné noisette. Il y a deux pralinés, c'est un coffret avec 4 bonbons de chocolat. Il y a 2 pralinés, donc il y a un praliné noisette et un praliné noix de pécan. Et il y a 2 caramels, il y a un caramel miel de châtaignier et un caramel pomme tatin.
Ok.
Donc en fait, c'est un petit peu le chocolat de la saison. Et après, on va refabriquer les chocolats, donc les bonbons, on va dire, de chocolat pour Noël.
Et alors, ces goûts, c'est vous qui les avez confectionnés?
Oui.
Le choix se fait comment?
Voilà, ça se fait, on va dire, on essaye d'utiliser un petit peu les produits de saison. Sauf pour la gamme, on va dire, traditionnelle qu'on a toute l'année. Donc là, c'est un petit peu plus les goûts que j'aime, en fait.
D'accord. On teste le métier de chocolatier toute cette semaine dans
Et après, vous allez vous mettre au sport.
J'ai pas le choix.
Ouais, oui.
On aura peut-être quelques-uns des secrets de fabrication
d'Olivier Vidal. Il en reste un peu
dans votre barbe. Je fais des réserves. Hein.
Chez Olivier Vidal, tout au long de la semaine, Mathieu Montel, j'ai testé pour vous Quel dur métier.
C'est pas facile.
Ouais, je comprends.
C'est
bien.
Difficile.
Restez avec nous sur France Bleu Auxerre. Gauthier Pergenon arrive d'ici quelques instants. Bernard Despoyon aussi. Notre chef du jour, ambiance grecque avec de beaux produits à découvrir et surtout un très beau coffret de savon à gagner d'ici quelques instants. C'est l'heure de jouer pour vous. 03 86 52 23 23. Avec quoi allez-vous vous laver demain? Avec les bons savons de Jocelyne Mauprin, les savons d'Icona. Qu'est-ce qui naît de la saponification? Est-ce que c'est la glycérine ou la nitroglycérine?
Sachant qu'on normalement quand on prend une douche, on survit. Voilà.
Enfin, c'est un indice.
Oui, hein, ouais.
Les savons d'Icona, votre coffret de 3 savons artisanaux pour vous ce matin, au lait de chèvre,
au miel
également, pour être beau, pour être belle, ils sont pour vous ces savons. Alors, qu'est-ce qui naît de la saponification, la glycérine ou la nitroglycérine? Tentez votre chance. 03 86 52 23 23. À tout de suite. Nous accueillons Martine à Chemilly-sur-Yonne. Bonjour Martine.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Qu'est-ce qui naît de la saponification? La glycérine ou la nitroglycérine?
La glycérine, bien sûr.
Bah oui, Martine.
Ça devient dangereux d'aller dans la douche.
Oui.
Doucement, Thierry Boulan. Vous avez laissé vos feuilles sur son clavier.
Pardon.
Et il en renverse mon café.
Oui.
Martine, c'est gagné.
Bravo.
Félicitations à vous.
Eh ben, merci beaucoup.
Vous allez être belle, vous allez sentir bon, vous allez peut-être retrouver le goût du savon pour vous laver.
Tout à fait, mais j'utilise déjà du savon.
Ah bah c'est bien ça, Martine. Bon.
C'est pour ça que j'ai participé, en me disant que peut-être, voilà.
Les savons made in Yonne. Félicitations à vous Martine, on vous embrasse, on vous souhaite une agréable journée et à très bientôt sur France Bleu Auxerre. À très bientôt, à demain. Mathieu Montel.
Je vais aller prendre une douche.
D'accord. Avec les jolis savons de Jocelyne Mauprin qui seront à gagner de toute façon tout au long de la semaine sur France Bleu Auxerre. À suivre Gauthier Pagenat, Bernard Despoyon pour parler de la cuisine grecque et des saveurs grecques, du soleil aujourd'hui. Bah, vu la journée qu'on va avoir, on en a besoin.
Voilà, c'est très bien.
On est dans le thème. Restez avec nous sur France Bleu Auxerre.
9h-11h. La vie en bleu sur France Bleu Auxerre.
Du soleil, on va vous en envoyer aujourd'hui, des bonnes ondes aussi, de belles saveurs et de la gourmandise avec vous Bernard. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va?
Eh ben ça va, là je suis rentré il y a 15 jours de Grèce, après un petit séjour de 3 mois, donc faut se réhabituer tout doucement. Il n'y a qu'une heure de décalage horaire, mais il y a beaucoup de décalage autrement.
La cuisine grecque, on en parle avec vous, le chef de la cuisine grecque dans Lyonne, les Eliès, c'était à Champs-sur-Yonne. Une page qui s'est tournée, mais quand même, voilà, ce goût pour la cuisine grecque, vous l'avez conservé. Et alors, n'hésitez pas, si vous aussi, vous voulez en savoir plus sur cette cuisine grecque, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous donner, voilà, quelques petites idées de recettes, pourquoi pas. Et avec vous, Gauthier Pagenat, également. Les saveurs d'ailleurs, aujourd'hui. Bonjour Gauthier.
Bonjour Nathalie.
Comment ça va?
Ben, ça va bien, et vous?
Ben, ça va très bien. On va vous envoyer un petit peu de soleil.
Ben, écoutez, ici dans le nord de Lyon, le soleil arrive de façon tenace. Hein. Je peux dire que voilà, je pense qu'à midi il y aura un grand soleil.
Ah bah écoutez, vivement midi. Alors mais pour l'heure il est 10h, on va passer cette heure avec vous pour parler de ces produits grecs, pour parler des bons produits qui vous font rêver, qui vous font saliver. Et ce sera d'ici quelques instants, juste après Raphaël. À tout de suite.
Bleu et la vie.
La vie gourmande aussi ce matin avec vous Gauthier Pagenat et avec notre invité Bernard Despoyon, l'ancien chef des Eliès à Champs-sur-Yonne. Alors pour parler de la cuisine grecque, aujourd'hui on parlait des savons d'Icona, justement Icona, le nom grec voilà. De Lyon et des Iconais, bah justement c'est aussi une association qui prône l'amitié France-Grèce installée dans Lyon. Vous, votre passion pour la Grèce, vous est venue comment Bernard?
Eh ben à travers mon épouse qui a vécu là-bas pendant 3 ans. Donc elle m'a emmené en Grèce en 84 pour la première fois. Et après, on y est retourné quand on a eu les enfants. C'était beaucoup plus facile d'aller dans un pays qu'elle connaissait bien, dont elle parlait la langue, avec beaucoup d'amis encore sur place, toujours des liens qui étaient gardés. Et ben, petit à petit, moi, j'en ai eu assez de faire le métier que j'exerçais avant. J'avais une première passion, c'est la cuisine. Une deuxième, la Grèce. Donc, j'ai ouvert comme ça mon restaurant grec.
Tout simplement.
Tout simplement.
Voilà. Et l'aventure était partie à tel point que bah, vous y êtes et vous y retournez assez régulièrement, à la fois pour vous inspirer, pour récupérer aussi de bons produits régionaux.
Alors, dès le début de l'aventure du restaurant, il y a deux importateurs de produits grecs sur Paris, mais c'est du produit standard vu que c'est des gros volumes, c'est des semi-remorques entiers qui arrivent. Et moi, connaissant un petit peu la Grèce, j'ai fait en sorte de ramener directement des petits producteurs, des produits frais, des épiceries et surtout du vin, en faisant travailler les petits producteurs. Et il y a une qualité au top de chez top. Avec des produits qui étaient introuvables en France, certains vins qui sont toujours introuvables en France, à part ceux que j'avais sur la carte. Mais maintenant, petit à petit, beaucoup de restaurants, mais sur Paris, les ont aussi à leur carte, ces produits-là.
Alors la cuisine grecque, comment vous la définiriez ?
C'est une cuisine qui est basée au départ sur la cuisine de la famille. Un peu comme, c'est exactement comme chez nous. Il y avait la mère qui cuisinait, la femme qui cuisinait. Et après, donc petit à petit, dans la façon de manger des Grecs, les réunions de famille se passent beaucoup dans les tavernes, dans les restaurants. Ils n'hésitent pas à sortir à 20, 30, faire des grandes tablées dans les restaurants parce que c'est abordable financièrement. On mange entre 8 et 12 euros par personne et à volonté à peu près, quoi. On sort sans la faim. Il y a une diversité énorme et il y a des parallèles toujours à faire avec tous les autres pays. Au départ, la cuisine, c'est une cuisine de région, locale. On cuisine que ce qu'on a chez soi ou dans un rayon proche par rapport à la conserve, par rapport au froid, par rapport à tout ça. Et petit à petit, avec les échanges qui se passaient à travers le monde, à travers ces choses-là, il y a beaucoup de produits qui ont été importés, beaucoup de produits importés déjà au niveau du pays, puis après importés d'autres pays, et l'enrichissement vient de là. Sachant aussi que la Grèce a été très très occupée par les Turcs.
Ouais. Donc, il y a des similitudes de toute façon.
Il y a des mélanges de cuisine. Ouais, il y a des plats qui sont totalement identiques, avec deux noms complètement différents.
Par exemple, chaque pays
revendique la paternité de ça. Par exemple, l'aubergine biani, qui est donc cuite avec de l'oignon, de la tomate, du persil, du vinaigre, avec beaucoup d'huile. Il y a les Turcs qui l'appellent, je sais plus quel nom c'est, et en Grèce, c'est l'aubergine biani.
D'accord. Voilà. Donc où chacun revendique cette paternité de ces produits. Des produits, des belles saveurs. Pour vous faire rêver et voyager aujourd'hui, c'est le credo de la vie en bleu. Gauthier, vous, parmi les voyages que vous avez déjà fait, la Grèce, les produits grecs, vous connaissez ?
Moi, il y a un produit grec que j'adore, et d'ailleurs j'en ai une bouteille d'huile d'olive, c'est la grosse olive noire de Kalamata, que Bernard doit connaître forcément, et je trouve que c'est sûrement une des meilleures olives que je connaisse. Elle est un petit peu, elle ferait 2,5 cm à peu près, mais elle est charnue et elle a une persistance aromatique. Je trouve que c'est un merveilleux produit, l'olive de Kalamata, qui se trouve évidemment aussi dans sa version en huile d'olive.
Oui, on trouve ça un peu partout maintenant. Et alors donc l'intérêt, c'est de les acheter là-bas fraîches ou de les cueillir sur l'arbre, les calamones, et de les faire soi-même. Quoi.
Ça, c'est le luxe absolu, bien évidemment.
C'est long, c'est pas compliqué à faire, mais c'est très long en temps. Quoi. Il faut à peu près un mois et demi, un gros mois pour les avoir. Quoi.
Vous faites votre propre huile d'olive ?
Non, les olives à manger. L'huile d'olive, non, parce qu'il faut aller au moulin,
il faut ramasser.
C'est pas les mêmes variétés C'est beaucoup les coronesses là-bas au niveau de la variété d'olive pour faire l'huile.
Donc en fait, ce qu'on appelle l'olive de Kalamata, c'est plutôt l'olive Koroneiki, c'est ça ?
Non, c'est la Kalamone. La Kalamata.
D'accord.
C'est la variété d'olive. Et après, donc, il y a aussi la Kalamata, mais bon, c'est des grosses olives quand même, hein. Mais en noir, parce qu'il y a aussi les
très
grosses.
Mais c'est original, je trouve. Vous voyez, c'est original parce que c'est charnu, ça change un peu de l'olive à laquelle nous sommes habitués.
Ah, bah, ça n'a pas le même goût non plus, hein. Mais c'est la variété de luxe là-bas, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'olives avec différents niveaux, hein. On retrouve ça dans tous les produits, comme ça. Donc, l'olive Kalamone, elle est grosse, charnue. Et alors, on la fend. La fente vient parce qu'il faut les fendre quand on les fait dégorger dans l'eau pendant 3 semaines. Donc, c'est pour ça qu'elles sont toutes fendues, les olives des Kalamata. C'est la façon de les préparer.
Les olives, l'huile d'olive, le régime crétois, la moussaka, l'ouzo et bien d'autres. Ça, ce sont les clichés. Pour le reste, je fais appel à vous, Bernard. C'est la cuisine grecque qui est à l'honneur aujourd'hui dans l'avion bleu sur France Bleu Auxerre.
France Bleu Auxerre.
bleu comme le ciel grec.
Et la mer.
Et la mer aussi.
La Thalassa.
Avec vous aujourd'hui, Bernard Despoignons, l'ancien chef du restaurant Les Eliès à Champs-sur-Yonne. On parle de la cuisine grecque pour ouvrir cette semaine du goût.
Pourquoi
de tous les goûts et des saveurs d'ailleurs aussi. Alors en parlant de la Grèce, vous pouvez nous offrir une petite carte postale de l'endroit où vous allez vous ressourcer.
Alors moi, je vais me ressourcer dans le Péloponnèse. C'est au sud-ouest du nord-ouest du Péloponnèse, à 70 km de Patras, c'est 50 km d'Olympie à peu près. Petite maison là-bas, à 6 km du bord de mer, quoi. Avec une petite vie tranquille, la vie de village, parce que dans tous les villages, il y a toujours d'un petit épicier, un fourneau, donc un boulanger, plusieurs cafés des fois, et toujours la taverne. Minimum une taverne dans un village de 200-300 habitants. En France, chez nous, il n'y a plus rien. Il y a des ambulants.
Vous la sentez vraiment, cette différence, ce manque voilà, de ouais. proximité, de commerce.
Ah ça manque, ça ouais. manque. Parce que donc, tous les cafés, effectivement, c'est population très masculine dans les cafés, toujours, très ritualisée, le petit café du matin, et sa cause, et sa cause, et sa cause. Les Grecs sont toujours très férus de politique, ils sont très au courant de ce qui se passe dans leur pays et chez les autres pays. Quand on va les voir, ils nous demandent des nouvelles. Macron va bien, Hollande va bien, qu'est-ce qu'il vient, et ainsi de suite. Ils sont très au courant de ce qui se passe, des gens qui les aident, des gens qui les aident pas. Et ils aiment beaucoup s'informer et ils sont très curieux. Il ne faut pas oublier que les Grecs étaient un peuple de navigateurs. Et en France, quand un étranger arrive chez nous, qu'est-ce que tu viens nous prendre ? Un étranger qui arrive en Grèce,
qu'est-ce que tu
viens nous apporter ? Donc ça change beaucoup la philosophie, même si maintenant c'est plus difficile par rapport à la crise, même si maintenant il y a beaucoup plus de vols qu'il y avait avant. Mmh. Avant, il n'y avait pas de vols. Hein. Mmh. Quelqu'un qui braquait une banque il y a 15 ans, ça faisait la une du journal télévisé de 20 heures, quoi. Mais maintenant, c'est plus banal. Mais c'était un fait très nouveau.
La vie a changé, en tout cas. Mais la vie politique, la crise financière est en passant par là aussi. Mais ça, c'est peut-être plus parlant dans les grandes villes comme Athènes.
Athènes, c'est complètement différent. Athènes, il y a une délinquance qui est plus forte. Il y a des toxicos qu'il n'y avait pas avant.
Oui, voilà. On est là pour, aussi pour parler.
Parler cuisine.
Mais après, ça reste aussi une réalité.
Voilà.
Mais cette vie de village...
Vie de village est très forte.
Existe encore et
toujours
très forte.
Toujours très forte. Et quand on arrive, moi je me promène pas mal dans les villages autour, de quel pays vous venez? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Parce que c'est pas du tout touristique là où je suis, moi. Donc quelqu'un qui est là, l'étranger qui est là...
Bernard le Français, quoi.
Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le Français, c'est le Gallia. Voilà.
Quelles sont les saveurs qui vous ont le plus marqué? Parce que j'étais dans les clichés juste avant, Regan Bonneman. Bah forcément, quand on pense à la Grèce, pour les non-initiés, Gauthier, vous n'allez pas me contredire, il y a la moussaka. En plat,
oui, la moussaka, qui est donc un mec qui est souvent galvaudé en France parce que il est graisseux et mal fait. Et en revanche, dans vos clichés, vous avez oublié un petit produit, mais qui est bon. C'est le muscat de Samos.
Oui. Alors il y a aussi un muscat qui est très très bon. C'est le muscat de Patras. Ça c'est excellent. C'est la famille Ayaklos qui fait ça à Patras. Et il y a toute la côte là du golfe de Corinthe est plantée en petit muscat et c'est remarquable.
Ah oui, mais dans mes clichés, j'ai oublié le raisin de Corinthe aussi.
Le raisin de Corinthe, là, j'en ai ramené du tout frais de cette année. Et j'ai même fait la confiture de raisin de Corinthe en frais.
Ah ouais?
Ah oui. Parce qu'on le, donc c'est un tout petit, le raisin de Corinthe, c'est une variété, hein. C'est ce qui est comme le chasselas. C'est tout petit. Ça pousse pas qu'à Corinthe, hein. Et donc là où je suis, il y a énormément de vignes où ils ramassent le raisin de Corinthe. Et alors c'est très marrant à voir. Ils préparent la terre tassée. Ils mettent du plastique pour la faire chauffer. Et quand c'est bien brûlant, ils ramassent et ils posent le raisin dessus et ils sèchent en plein air. Comme ça, sur 3-4 jours, il est sec tellement c'est brûlant dessous.
D'accord.
Et après, ils ramassent et ils égrènent.
Mmh. Et il le pose comme ça, à même la terre.
Mais elle est chauffée au soleil, ouais.
C'est une sorte de passerillage, alors, on dirait.
À peu près, mais c'est plutôt une serre qu'ils ouvrent après, quoi, pour avoir une température à 50-60 degrés au sol.
D'accord.
Ils font chauffer mais c'est de la terre très, très tassée, très, très, des années. Ils ont des surfaces comme ça entières où ils mettent le raisin. Et là, ils récoltent ça à partir du 15 août, quoi.
Mais moi, je n'ai pas eu ma recette de la moussaka.
Bon, on va la donner, on va la donner. Alors, la moussaka, ce qu'il faut savoir pour la moussaka, c'est que la meilleure moussaka qui existe au monde, c'est celle qui est cuisinée par la maman.
Ah bah ça,
le reste, c'est galvaudé.
Forcément.
Voilà. La mère en cuisine, c'est terrible, ça.
Ah bah
c'est
oui, pour les Grecs, même voilà. Mais généralement dans toute la cuisine. Alors, de l'Europe.
La seule chose qui est sûre dans la moussaka, qui est commun à toutes les recettes, c'est l'aubergine. Mmh. Voilà. Aubergine, huile d'olive. Et souvent, la sauce mornay, quoi. D'accord. La sauce mornay, c'est-à-dire une béchamel avec des œufs. Alors, en France, on met du gruyère. Mmh. En Grèce, on met d'autres fromages, on met des graviera. Parce que c'est des fromages locaux, des tomes un peu de bœuf, de brebis et de vache. C'est un peu séché, cuite comme ça, la tome cuite. Alors après, pommes de terre, pas pommes de terre.
Il y a les deux écoles.
Aubergine au four, à la poêle, dans l'huile d'olive égouttée, une autre façon de faire. La bolognaise, une sorte de bolognaise, soit agneau, soit bœuf, soit un peu des deux. Voilà, donc il y a plein de recettes. Et il y en a même certains qui mettent de la cannelle. La cannelle est un épice dont les Grecs se servent beaucoup avec la viande. Pour nous, la cannelle, on l'associe au sucré,
comme la
vanille, alors que c'est un épice qui n'est pas sucré, qui n'est pas salé. C'est un épice neutre au départ. Mm-hmm. Donc, dans les bolognaises, souvent, il y a de la cannelle chez les Grecs. Après, c'est un goût qui gêne un peu chez nous, donc moi, j'en mettais pas. Je mettais beaucoup d'origan. Donc, moi, je faisais déjà une bolognaise avec 80% d'agneau et 20% de bœuf haché. Coulis de tomate, origan, huile d'olive, une cuisson la veille pour que les goûts s'infusent, dégraisser le lendemain, pommes de terre revenues à l'huile d'olive en lamelles fines, tapisser le fond du plat comme ça, aubergine, pareil, coupée en lamelles, revenue à l'huile d'olive, mise au-dessus des pommes de terre, quelques tomates crues, la bolognaise à l'agneau, et dessus une sauce mornay, c'est-à-dire une béchamel dans laquelle je rajoutais des œufs entiers, du gruyère et un petit peu de muscade et trois quarts d'heure, une heure au four à 180.
Mmh. Et ça, c'est une vraie moussaka.
Voilà. Moi, c'est comme ça que je la faisais au restaurant.
Ça a le goût de la moussaka. Voilà.
Et l'origan, par exemple, les origans, je les ramenais, origan sauvage, ramenais de Grèce directement, par exemple. Pas l'origan d'un célèbre monsieur qui se décarcasse. Quoi.
Par exemple. Bah, comme on en est dans les clichés.
Qu'aurait un nom qui pourrait faire penser à un nom grec un peu.
Oui, bah justement, on va y revenir cette fois-ci pour parler de la feta aussi.
La feta.
L'un des emblèmes de la cuisine grecque partout à Tis. Hein
bah,
Alors justement, la feta, on en parle. On parlera aussi de tous ces produits, de toutes ces saveurs qui sentent bon et qui amènent du soleil. Aujourd'hui, c'est la vie en bleu sur France Bleu Auxerre avec Bernard Despoyon, l'ancien chef des Héliès à Champs-sur-Yonne, avec vous également, Gauthier Pajonin. Juste après la pub.
France Bleu Auxerre.
La vie en bleu chaque jour avec vous, 03 86 52 23 23 avec Gauthier Pajonin et notre invité aujourd'hui Bernard Despoyon, l'ancien chef des Héliès à Champs-sur-Yonne, pour évoquer la cuisine grecque et tous ces noms que l'on entend mais finalement on ne sait jamais trop à quoi ça correspond et peut-être qu'on n'en a jamais goûté. La feta en fait partie, Bernard.
La feta en fait partie et surtout ce qu'il y a de bien, je ne sais plus, il y a au moins 3 ou 4 ans, les Grecs ont récupéré l'appellation d'origine. Donc,
ce qui est tout à fait normal.
Voilà. Donc, quand on m'en achète de la feta, la seule certitude, c'est qu'elle est faite en Grèce. Après, pasteurisée, pas pasteurisée, 100% brebis, il y a une tolérance avec 20% de lait de chèvre. Et après, il y a tout l'affinage. L'affinage, soit en baril, en boîte inox, soit en fût.
Et ça change quoi?
Ben, le goût est plus fort quand c'est en fût. Moi, je le trouve beaucoup plus fin. Donc, la feta, donc, c'est du lait caillé à basse température, à 40-50 degrés. On casse le caillé et après, on l'égoutte dans des grands moules. Et après, on laisse affiner un certain temps. Donc, pour que ça se tasse, ça peut être affiné pendant un an et demi d'un certain fût, comme ça, dans chambre froide. Et après, bon, ça, c'est la feta artisanale. Et avant, chaque paysan faisait sa propre feta. Maintenant, c'est un peu fini. Ils ont des grands tangs comme chez nous dans les fermes. Et il y a un ramassage du lait qui est effectué régulièrement par les citernes, quoi. Comme chez nous pour le lait de vache dans les pays de montagne un petit peu, quoi.
Et ça est-ce que vous diriez que la feta, c'est le fromage national grec un peu?
Oui, il y en a partout. Il y en a partout. C'est-à-dire qu'un Grec, sur la table, il y aura toujours une salade, donc tomate, la coriatiki, la salade paysanne, donc le concombre, la tomate, l'oignon rouge, l'origan, ça c'est la base. Certains rajoutent des olives de Kalamata, des poivrons coupés en lamelles très fines, des choses comme ça, ou des feuilles de câpre. Et à côté, il y a toujours l'assiette, la tranche de feta, huile d'olive. Alors l'huile d'olive, faut savoir, en dessous du centimètre dans l'assiette, il n'y en a pas. C'est une base. Autrement, on en remet. S'il n'y en a pas un centimètre, c'est que c'était pas généreux, quoi. Et donc, et l'origan. Ça, c'est toutes les tables, il y a ça, et on pioche dedans entre deux bouchées de plats, suivant les plats. C'est la base. Les Bretons ont leur mode de beurre salé, les Grecs ont leur salade, la koriatiki, et la tranche de feta.
Non, c'est pas mal, ça. Voilà. Ça vous va, Gauthier, aussi?
Ben oui, puis c'est bon. La feta, c'est vrai que c'est un bon fromage. C'est un fromage un peu friable, et que ça se marie notamment comme les tomates mozzarella, mais oui, ça se marie bien avec les tomates, notamment, ouais. Comme vous
et
le disiez.
Ça se fait cuire aussi, hein. Ah ouais. La feta, il y a beaucoup de cuisson avec de la feta. Il y a ce qu'ils appellent le saganaki. Donc, c'est des tranches de feta un petit peu farinées, frites à l'huile d'olive, dans la poêle. Il y a aussi la feta psiti. Donc, c'est cuit dans des petits coquelons, avec une tombée de poivrons, d'oignons, de tomates qui sont un petit revenus à la poêle. On met ça dans les petits poêlons, dans les petits coquelons. On met une belle tranche de feta, un petit peu de piment, et on cuit au four comme ça. Ça se fait aussi chaud.
C'est bon, ça.
C'est bon, oui. Bon, on y arrive à tenir ça.
Hein. Oh, je pense, ouais. Et ça, en tout cas, ça donne bonne mine, hein, ça va, Bernard.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès qu'il y a quelque chose à boire en Grèce, il y a toujours, toujours quelque chose à manger qui accompagne. Que ça soit que ça soit au café, que ça soit n'importe quand, dès qu'il y a une boisson, il y a du solide.
Alors on parle là du salé, du côté salé, oui. Qu'on connaît de la cuisine grecque, mais j'imagine qu'ils sont pas avares de desserts non plus.
Non. Alors par contre les desserts, faut aimer le sucre, quoi. Si on n'aime pas trop le sucre, là on va être un petit peu, ça va être un peu difficile. À part beaucoup de fruits. Ouais. Il y a une variété de fruits et dans les restaurants. Le dessert l'hiver, c'est souvent des fruits qui sont offerts. Il y a rarement des desserts payants dans les restaurants, à part dans les pâtisseries. Dans les restaurants, ils vous offrent toujours une petite note sucrée à la fin, un petit morceau de pomme avec un peu de cannelle, un peu de miel, un petit ravani, donc c'est un gâteau de semoule avec un sirop de sucre, le baklava, donc c'est un petit à la pâte filo avec un sirop miel, amande et des petits clous de girofle posés dessus à chaque fois. Voilà, il y a beaucoup de desserts grecs effectivement, mais sucrés.
Mais le baklava, c'est pareil, c'est grec, c'est turc.
Si on revient à ce qu'on avait dit au début.
Oui, tout à fait, voilà. Oui.
Alors, sachant que normalement, donc, le baklava, la recette traditionnelle, ça peut être un mélange d'amandes, de noix, un peu des deux. C'est haché très grossièrement, c'est pas en poudre du tout. Mais par contre, ça aime le beurre. Il faut bien tartiner chaque tranche de filo avec du beurre et un sirop de sucre à base de miel. Il est pré-coupé. Et normalement, sur chaque petit carré, on enfonce un clou de girofle.
D'accord.
Pour parfumer un peu l'ensemble.
Voilà. Pas mal.
Et ils sont très forts aussi en fruits sucrés, ce qu'ils appellent les glycos. C'est-à-dire que c'est des fruits, en général, la cuillère tient debout dans le sirop, quoi, tellement c'est dense.
C'est pas bon signe.
Voilà. Donc ils font des raisins, ils font des petites figues, ils font même des aubergines comme ça en sucré. Et c'est très très bon.
D'où votre passion pour le vélo, parce qu'il faut éliminer aussi
après. Faut éliminer un petit peu, quoi. Mais on a des calories, on tient l'effort après, comme ça. Hein.
Gauthier, on s'intéresse également au vin quand on parle de la Grèce, Bernard.
Ah oui, parce que c'est un pays de vignobles, comme toute la côte méditerranéenne, mais il y a des vins grecs qui sont peut-être moins connus chez nous, mais qui sont quand même réputés.
Ils sont très peu connus chez nous, mais il ne faut quand même pas oublier que les cépages, au départ, viennent de Grèce. Ils viennent du Tigre et de l'Euphrate, au départ, ont transité par la Grèce, les Romains, et ça a été implanté au niveau de Marseille, après la vigne. Parce qu'à l'époque des Gaules, c'était plus la cervoise tiède que le vin.
Le vin, voilà. Absolument.
Alors, le vin, tout le monde connaît grec par rapport au vin résiné, sachant qu'il y a 5% de la production, pas plus, maximum. Hein. Et l'origine du résiné, c'était dans l'Antiquité, ils tapissaient les amphores de résine de pin pour les rendre étanches. Et donc, il y avait une osmose qui se faisait avec le jus de raisin et la résine, comme ça. Et donc, ils aimaient ce goût-là, ils l'ont perduré. Maintenant, il y a beaucoup de résinés qui sont faits très mal, très mauvais résinés. Et il y en a deux vraiment qui sortent du lot. Il y a Yéa qui est à côté de Néméa, qui en fait un, mais avec du vrai, la résine de pin d'Alep. et tout un cépage Rhoditis, et un autre qui s'appelle Alarme de Pin qu'on trouve vers Thessalonique.
Donc ça, c'est le plus reste, dans
ça,
le
c'est
nord,
le haut de gamme. Le haut de gamme. Ouais. Non, le Néméa, c'est dans le Péloponnèse.
D'accord, ok.
Dans le Péloponnèse.
Et ça, quel goût alors ce vin résiné?
Bah, c'est un goût de résine de pin. Alors la subtilité, d'accord, soit c'est très fort en résine, et là c'est imbuvable. Mais bon, après, faut aimer le goût de la résine un peu bonbon des Vosges, quoi.
D'accord. Hein, bah, c'est bien voilà. Pour les mal de gorge, voilà, pour les maux de gorge,
tout,
pardon.
Ça soigne ouais. Tout. Ça soigne tout. Donc, ils font aussi donc les cépages les plus connus là-bas. On a sur tout en haut dans le nord, à Naoussa, les Xinomavros, c'est en cépage. Donc, c'est des vins très très fermés. C'est des vins d'altitude. Hein. Là-haut, c'est assez haut. Il y a du ski, il y a tout à Naoussa là-haut. Hein. C'est dans le nord, à la limite de la frontière, au niveau de la Macédoine. Et donc, c'est des vins minimum 10 ans de garde. Hein. Et il y a beaucoup, beaucoup de vignerons de cette région-là. Moi, je les ai à peu près tous visités là-haut à l'époque. La plupart parlent français parce qu'ils ont fait beaucoup étudier en France, surtout le travail, la culture de la vigne. Pour tout ce qui est vinification, là, ils maîtrisent bien le sujet, mais ils aimeraient bien faire comme chez nous, pouvoir faire ressortir un petit peu l'âme de leur sol et de leur sous-sol, pour que ça se diffuse bien à travers le pied de vigne. Et après, l'élevage en fût de chêne, beaucoup, voilà.
La dégustation et la découverte des vins grecs, ce sera la dernière partie de notre émission d'ici quelques instants, avec vous Bernard Ardépoyan, l'ancien chef des Eliès à Champsuriennes, avec vous Gauthier Pajonat, également une petite balade à travers l'Europe aujourd'hui pour découvrir ces belles saveurs. Ce sera la dernière partie de cette émission, La Vie en Bleu sur France Bleu Auxerre. Belle matinée.
9h-11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Auxerre.
Je peux vous poser une question indiscrète, Gauthier? Qu'est-ce que vous êtes
Mais
en train de
je
faire?
Vous en prie, Nathalie.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
En fait, je venais de passer, d'enlever un peu les couanes qui tapissaient hier la gamelle de ma cuisson du gigot de 7 heures pour garder le fond du bouillon et faire après une soupe avec des poireaux. Voilà.
D'accord.
Et je mettrai un peu de pommes de terre et de l'oignon. Voilà, vous savez tout.
Très bien, très bien. Bah, ma foi, vous pouvez faire plus. Vous êtes multitâche, en fait. C'est dingue, ça.
Ben, incroyable, oui, oui, oui. Puis, voilà. Non, mais le gigot de 7 heures, c'est un grand plat. Je pense que ça ne déplairait pas à nos amis grecs.
Ils le font, et, ils voilà, le font aussi. Hein.
Ils font une variante, c'est ce que je pensais, ouais. Peut-être avec du cabri, non?
Non, ils font ça aussi bien avec l'agneau. Les petits agneaux, là-bas, c'est des 9-10 kilos quand ils les tuent.
Ah
hein.
Oui,
c'est des petits agneaux.
Ils sont tout petits, oui.
Et ils sont faits en sorte pour rentrer dans un plat rond, coupé en morceaux. Et ils sont emmenés au four du boulanger, comme ça se faisait chez nous. C'est-à-dire que le matin...
Ah, mais alors, ils le coupent?
Il le coupe avant cuisson? Il le coupe pas en morceaux, il le coupe pour que ça rentre en cercle dans le plat.
Ah, contrairement au gigot de 7 heures, alors
voilà.
D'accord.
Et ils font ça, donc le four du boulanger, le dimanche matin, on les voit arriver chez le boulanger, amener leur gamelle, quoi. Ça se fait encore beaucoup. Ça se faisait chez nous il y a quelques années dans les boulangers de village. Comme il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus.
Mais ce que vous mentionniez, c'est vrai que c'est quand même, ça fait, et d'ailleurs c'est un côté rassurant, c'est le maintien d'une certaine vie sociale et commerciale dans les villages, qu'a peu ou prou, hélas, disparu.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais c'est indéniable.
Ça tient aussi pour une raison très simple, c'est-à-dire que les prix dans les épiceries sont à peine plus chers que dans les grandes surfaces.
Oui, donc ça maintient cette...
Ils ont l'ardoise. C'est-à-dire qu'ils font le compte à la fin du mois.
En France, les épiceries de village, ils sont assez compétitifs hein, sur les tarifs et le rapport qualité-prix, il est maintenu, il n'est pas 30% plus cher. Non. Et franchement, ils ont fait des gros efforts, les épiceries de village et leur réseau de distribution.
Et il y a toujours le boulanger, il y a toujours le fourneau. Hein.
Ça, c'est agréable.
Ça, c'est bien. Ils pétrissent, mais c'est les pains de soit ce qu'ils appellent le miso-kilo ou le kilo. Un demi-kilo ou un
c'est
kilo.
C'est des 24 c'est livres, quoi, des
ouais,
gros
ouais,
pains.
Même plus gros, si on veut, oui. Mais c'est la lune basse, c'est surtout le kilo, hein, à la base. Et ça tient la semaine. Hein. Ça fait au levain. Hein.
Je pense que vous seriez heureux en Grèce.
Ah, bah là.
Gauthier.
Parce que j'en doute pas. Mais ouais. Quand on écoute Bernard, c'est un conteur et il nous explique cette vie qu'il connaît au quotidien. Mais moi, je trouve que de savoir qu'on peut aller prendre son petit café le matin au village, je trouve ça chouette et je trouve dommage qu'en France, ça ait beaucoup, beaucoup disparu.
Ben, faut venir, hein. J'ai une place dans la valise, hein, le prochain voyage.
Il tient pas dans la valise,
alors,
mal.
Mais j'ai une grosse voiture.
Alors,
parce
la grosse
que
voiture, ça marche,
de vin,
alors.
Ramenez beaucoup de vin.
La grosse voiture, c'est bon. Et si vous avez le carburant, à consommer avec modération, bien sûr. Bah, justement, en parlant.
Le carburant à consommer avec modération.
Oui, le carburant, ouais. Celui-ci.
La devise des Grecs, c'est on sait quand ça commence.
Bien sûr.
Tout un programme.
Voilà. Alors là, on parle dégustation et des différents cépages, justement, puisque c'était l'objet de notre dernière discussion ce matin avec vous, Bernard, de parler du vin. Quels sont les différents cépages typiques grecs?
Typiques. Alors, la typicité des cépages grecs, c'est aussi par rapport à la région sur laquelle ils sont exploités. Par exemple, si on prend un exemple, il y a une île qui s'appelle l'île de Céphalonie, qui est assez connue parce qu'il y a eu un film qui a été fait, la mandoline du capitaine Corelli. Il y a Albert Cohen qui avait écrit Sola, les Manchelous, qui se passe là-bas. Donc, le cépage typique, c'est le Robola. C'est un cépage blanc. Il y a des petits producteurs là-bas. Donc, c'est un vin un peu iodé, un peu marin. Donc, c'est très, très spécial, très goûteux, un petit peu une bonne acidité et très bien élevé. Le plus connu, la façon de cultiver la vigne, c'est ce qui se passe à Santorin. Santorin, c'est une île très volcanique. Il y a un cépage blanc qui s'appelle l'Acertico. Et là, c'est une île qui est tellement balayée par les vents que chaque cep de vigne est cultivé en rond, autour de lui-même, au ras du sol, pour pas que le raisin soit asséché par le vent et sur des sols volcaniques. Donc c'est des vins qui ont très très petit rendement, des vins qui coûtent assez cher à la bouteille, mais qui ont leur typicité aussi. On retrouve un peu un petit goût de lave dedans, c'est très agréable à boire. Et tous les rouges, là où on a surtout sur Nemea, le cépage le plus connu, c'est l'Agurgitico, qui est défini comme le sang d'Hercule. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Non, dites-moi.
Parce qu'à Nemea, le premier travail d'Hercule, c'était le lion de Némée.
D'accord, ah oui.
Donc le
Hercule était là. Mais moi, je croyais qu'en Grèce, il y avait aussi du chardonnay, non ?
Il y a du chardonnay, mais moi, il y a du chardonnay, on retrouve du cabernet sauvignon, on retrouve du viognier, on retrouve...
Voilà, quelques cépages que l'on trouve chez nous aussi.
Mais là, je parle que des cépages autochtones, là, par rapport à ça.
Des cépages typiques, d'accord.
Voilà, voilà. Certains... alors, il y en a un qui renaît un petit peu, c'est le Malvasia. Donc, on le retrouve dans tout le sud de l'Europe. Donc, c'est un vin qui est fait en vin de liqueur, ça. Avec très petit rendement. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a un producteur, où je vais en chercher, il fait 700 demi-bouteilles par an. Point.
Oui, c'est
voilà. Donc, effectivement, c'est pas donné. C'est des vins, on en prend...
Ce qui est rare et cher.
On en prend une gorgée. On en prend une gorgée, un quart d'heure après, on a encore le goût dans la bouche, tellement c'est dense, et ainsi de suite. Donc, il y a vins, les liquoreux aussi, qui existent. Les petits Samos, les Muscats, différents Muscats, Céphalonie, Patras, Samos. On retrouve ces cépages-là.
Le Muscat de Samos, c'est bon, hein.
C'est très
bon,
c'est très bon. C'est comme tout. Là, c'est tellement galvaudé. On en trouve en grande surface qui sont faits de façon...
Il faut chercher un petit peu, il faut se donner mal de trouver.
Il y a des grands crus, il y a des appellations. Ça varie entre 4 euros et 40 euros la bouteille. Hein. Donc, il faut le savoir, ça.
Donc, de belles idées, et en tout cas, un beau voyage que vous nous avez offert ce matin, Bernard.
Et n'oublions pas la devise d'un restaurateur grec de Paris. Il disait « Manger grec, c'est voyager. Manger grec et voyager ».
Tout à bah, et voilà, ce sera le mot de la fin pour cette émission. Reste plus qu'à. Pareil que vous avez de la place dans la voiture.
Voilà. Qui peut.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui,
c'est moi,
Bernard. Gauthier, merci beaucoup à vous aussi. Bah, je vous laisse récurer votre casserole.
Tout à fait. Puis à demain, là, on va revenir dans le Morvan, je crois.
Hein. Oui, tout à fait. Dans le Morvan et dans Lyon aussi, puisqu'on va parler champignons demain. Bah, des champignons que les Grecs ne cuisinent pas et ne ramassent pas en plus.
Peu.
Bah voilà. Un bon plan champignons. Les forêts grecques aujourd'hui. Demain, on va s'intéresser aux cèpes, aux girolles et autres avec Francis Salamollard, c'est le maître du champignon dans Lyon, et aussi le chef de l'auberge de l'Âtre à Carré-les-Tombes, et aussi Claude Chardinou qui est le président de la Société mycologique de Lyon, hein, puisqu'ils organisent leur salon du champignon, ce sera à la fin du mois au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc le champignon, comment on le conserve, comment on le cuisine, comment on le nettoie surtout, parce que c'est une éponge, donc il faut faire attention. Rendez-vous demain à partir de 10h pour cette belle discussion de sous-bois. Gauthier, passez une bonne journée.
À demain, Nathalie.
À demain.
France Bleu Auxerre.
Bonjour Marie Vernet.
Bonjour Nathalie.
On vous retrouve d'ici quelques instants sur France Bleu Auxerre. Le bon plan du jour.
Together. Chou-chou. Oui, c'est un rapport avec le train, je vous confirme. Ne faites pas cette tête.
J'ai rien dit.
Nous allons prendre le train tous ensemble. Vous allez voir, on va faire de vraies économies.
Et en plus, on sera ensemble.
C'est ça.
Assis.
Together.
Together.
Avec des numéros de place juste à côté les uns des autres.
Bah, c'est royal ça.
Hmm,
bon, mais c'est à suivre sur France Bleu Auxerre.
France Bleu Auxerre.
Les bons plans, chaque jour, c'est avec vous, Marie Vernet. Un bon plan train aujourd'hui.
Oui, le bon plan du jour, c'est Together. C'est mignon, together.fr. Donc, Choupi.
Ah non, pardon.
Vous, vous avez des enfants, hein. Non, Chouchou, le train.
Ah, pardon.
Et Together, ensemble, en anglais.
Vous êtes bilingue.
Mais oui, Together.
Et vous nous proposez donc de prendre le train en groupe.
Exactement, nous allons faire des économies, c'est promis. Je vous explique.
Allez, c'est parti.
Le concept Together vous met en relation avec d'autres voyageurs afin de vous faire bénéficier de tarifs de groupe. Grâce à Together, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu'à 60%. Vous vous connectez sur together.fr. Vous vous inscrivez gratuitement. Vous entrez le trajet qui vous intéresse, TGV ou TER, peu importe. Vous créez un groupe, vous rejoignez un groupe déjà existant, l'un ou l'autre. Le groupe a 48 heures pour se remplir. Et il faut être au minimum 15 personnes sur un trajet pour bénéficier du tarif de groupe, à savoir moins 25%. Si vous êtes plus, la réduction sera plus importante. Ça marche par palier.
C'est minimum 15, quoi.
Minimum 15. Une fois que le groupe est constitué, vous payez en ligne et de façon sécurisée votre participation au voyage. Et là, vous recevez votre billet par email dans la foulée. Attention, ce sont bien des billets SNCF. Hein. C'est bien auprès de la SNCF que vous achetez votre billet. Together n'est pas une agence de voyage. Le site ne vend pas de billets. Ils mettent simplement en relation des voyageurs sur un même trajet pour qu'ils puissent bénéficier de l'offre de groupe existante à la SNCF.
Et ça marche vraiment? C'est vraiment efficace?
Ah oui, ça marche. C'est légal, c'est efficace. Au lieu d'acheter votre billet en individuel, vous achetez en groupe, même si ce sont avec des personnes que vous ne connaissez pas. C'est gratuit, en plus, ce site Together, donc ça vaut le coup de créer un groupe. S'il est rempli, tant mieux, vous profitez de la réduction. S'il n'est pas rempli, tant pis, vous prenez le tarif individuel, mais vous aurez au moins essayé. En tout cas, si ça marche, sachez qu'en plus du tarif avantageux, vous profiterez de compagnie agréable.
Oui, parce que du coup, bah, tout le groupe est côte à côte dans le train.
Et oui, vous aurez des places les uns à côté des autres, les places numérotées par exemple, si c'est un TGV. Du coup, ça vous fait un premier point commun pour engager la conversation et c'est plutôt rigolo.
C'est du cotrin.
Oui.
Bonne humeur et réduction, together.fr, donc le bon plan du jour pour bénéficier d'un tarif de groupe à la SNCF. C'était votre bon plan, Marie. Bonne journée.
Ah oui, à vous aussi.